Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes en quête de sagesse, ou tout simplement inspirés, partagent avec nous leur parcours de vie et nous donnent des pistes pour grandir en humanité. Je suis partie à la rencontre de ces chercheurs d'hier et d'aujourd'hui. Vous écoutez Envie de Sagesse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de l'Agenais. Merci de votre fidélité. Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro d'Envie de Sagesse. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi au studio une très jolie auteure qui s'appelle Magali Dubreuil-Bourguet. Bonjour Magali.
Bonjour Myriam.
Et vous êtes venue de Montauban, donc tout près. Hein.
Tout à fait.
Vous n'êtes pas très très loin de chez nous et vous êtes à la librairie Martin Delbert cet après-midi pour dédicacer tous vos romans, si j'ai bien compris.
Voilà, les 7 romans.
Voilà, les 7 romans que vous avez écrits. Donc, vous avez compris, nous sommes le 22 janvier, cette émission, vous l'entendrez peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, Magali dédicace tous ses livres. Alors Magali, je vous ai proposé de venir dans mon émission parce que vous avez écrit des romans qui ont une petite particularité, comme vous m'expliquez tout à l'heure, ce sont des romans inspirants. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par ça ?
Ce sont des romans qui... sont nourrissants, voilà, qui nourrissent des romans qui traitent de résilience, de belles leçons de vie, et donc qui inspirent au bonheur ou en tout cas à un mieux-être. Ils traitent tous de thèmes très différents les uns des autres. Souvent, j'emmène les lecteurs en voyage, et voilà, c'est un voyage à la fois dans le monde et à la fois un voyage beaucoup plus intérieur, avec une certaine introspection proposée.
Alors là, je vais quand même dire deux titres qui vont quand même... Déjà dans le titre, on entend « Mon étoile de mer », ça c'est le dernier.
Oui.
Et puis vous m'avez amené le premier aussi, « Parce que pour mourir, il faut être vivant ». Alors c'est quand même pas une phrase anodine et c'est pas un titre anodin.
Exactement, les deux font partie de la vie. Alors, bizarrement, où on est tout de suite amené et happé par le titre ou l'inverse, selon où on en est justement dans sa vie.
Oui.
Mais bon, la mort fait partie de la vie. Après, ceci dit, ce sont tous des romans positifs. Donc, c'est vraiment plus une histoire de renaissance, de résilience et non pas de condamnation. Mais il y a tout un chemin à parcourir. Et donc,
Oui. Alors, on va maintenant s'intéresser à vous, parce que c'est une émission où je m'intéresse au parcours des personnes que je rencontre. Et derrière ces romans, il y a vous. Et donc, dans le premier roman, justement, parce que pour mourir, il faut être vivant, vous avez toute une histoire à raconter. Quel a été le déclic qui, finalement, est-ce que vous pouvez nous partager aux auditeurs comment il est né, ce premier roman ?
Oui. Alors,
dans quel contexte, etc.
Oui. C'est déjà tout un parcours de vie, puisque j'ai un parcours assez atypique. J'ai eu de nombreux métiers et j'ai souvent vécu à l'étranger. Et en 2019, en fait, souvent j'écrivais déjà pour moi, depuis toujours, j'ai toujours écrit, mais j'écrivais beaucoup de réflexions sur le sens de la vie, sur de petites réflexions philosophiques comme ça, mais hors contexte, qui sont... pas toujours évidente à comprendre. Et un jour est venue cette histoire. Je suis vraiment rentrée chez moi en disant à mon mari, j'ai une histoire et dans ce contexte, les messages vont vraiment passer. Voilà, donc oui, tout est arrivé, oui, en...
En 2019, oui, mais vous m'aviez dit que c'est quand même un événement.
Tout à fait, oui. En fait, un jour, j'ai une petite plume dufteuse qui m'est tombée sur le bout du nez, on peut vraiment le dire comme ça. Comme je partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, moi, j'ai trouvé vraiment l'événement amusant. Je me suis prise en photo et donc j'ai mis comme message que quand certains ne voient qu'une simple plume, moi, j'y vois un message. Je ne savais pas de qui ni de quoi, mais... Pour moi, voilà, on essayait de me dire quelque chose. Et en fait, en rentrant chez moi dans l'après-midi, j'ai reçu un coup de téléphone qui m'annonçait que ma grand-mère venait de décéder. Donc, tout part de là, effectivement, parce que ma grand-mère est un personnage quand même important dans ma vie. Elle m'a appris à lire, à écrire. Elle a passé énormément de temps à m'instruire. Et elle était vraiment férue de littérature. Donc, c'était une institutrice. Elle m'a toujours poussée à lire, envoyer des tas de livres tout au long de ma vie, en s'assurant bien que je les ai lus. Et donc, voilà, elle est décédée en février 2019. Et j'ai commencé à écrire en février 2019. Cette histoire est arrivée. Et donc, voilà, après,
c'était un besoin, c'était comme quelque chose qui vous poussait à écrire quelque part. quelque part elle et en même temps au-delà d'elle. Comment vous expliquez ce besoin d'écrire soudain ?
Alors, besoin d'écrire, j'ai toujours eu besoin d'écrire, mais pour moi. Et là, c'était vraiment le moment, en fait. Je pense que tout arrive au bon moment. Donc, voilà, je pense qu'elle a, je ne sais pas, si elle a ouvert une porte, si effectivement, elle m'épaule un petit peu aussi dans ce travail d'écriture. Mais c'était le moment où j'avais eu envie et besoin d'écrire, mais pour transmettre, et non plus pour moi, en fait.
Ah ouais, c'est important, ça.
Oui.
C'est vraiment un cap. C'est-à-dire, avant, vous écriviez pour vous-même, dans votre petit coin, j'allais dire.
Voilà. Avant, j'écrivais comme un exutoire, on va dire.
Ah ouais.
Sauf que c'était bien mûri, et à partir de maintenant, je ne le vis pas du tout comme étant un exutoire. Je le vis vraiment plutôt beaucoup d'humilité, hein.
Oui.
Mais voilà, cette
transmettre
envie
votre expérience,
de transmettre,
simplement.
Voilà, tout à fait.
Et donc, ce premier livre, il parle de quoi ? Est-ce qu'il est relié ou pas du tout à cet événement ?
Alors non, il est plutôt relié, je dirais, avec d'autres événements vécus plus tôt. J'ai accompagné mon frère et mon père dans la maladie pendant pas mal d'années, pratiquement 7 ans. Et donc, tout part de l'histoire d'Océane, qui est née avec une cardiopathie congénitale. C'est une malformation cardiaque. Il n'y avait rien de grave en soi, en fait, jusqu'ici. J'ai choisi le cœur aussi pour cette notion, justement, d'affect et d'émotion, un cœur fatigué. Et donc, le livre commence page 1 dans le cabinet du médecin qui lui annonce que les examens de routine sont catastrophiques et ne vont pas aller en s'arrangeant. Donc forcément, elle est amenée à faire un bilan sur sa vie. Elle est mariée depuis 17 ans, invisible depuis 5 ans parce que son mari a réussi, lui, professionnellement et n'est jamais là, toujours absent de séminaires, en salon, etc. Après, lui aussi est à la même période de sa vie et a eu tendance un petit peu à se perdre en cours de chemin de par le travail et des enfants adolescents qui sont adolescents, oui. Et donc qui font leur vie, un travail où c'est un numéro parmi tant d'autres.
La vraie crise de quarantaine, si j'entends bien.
C'est, voilà, tout à fait. Alors, crise, pour moi, c'est un mot... disons que je pense que c'est pas forcément une crise, mais en tout cas, on en est effectivement à la moitié de sa vie. Mm. Et donc, alors ça se passe entre 35 et 55 ans, ça dépend aussi de ce qu'on a pu vivre, des fois. Mais en tout cas, il y a une totale remise en question. Et pour moi, c'est un petit peu comme s'il y avait deux naissances, finalement. Et la première, bon, c'est la naissance physique. Et on devient ce qu'on nous a amené à devenir, en fait. Hein. C'est tous les tout ce qu'on acquiert des autres, finalement. Et puis, à 40 ans, il y a comme un grand nettoyage. Et puis, finalement, on se pose les bonnes questions. Et des fois, on n'est pas, finalement, là où on aurait toujours voulu être. Et on désapprend et on réapprend. Et donc, c'est vraiment ce qui se passe. Et souvent, bah, c'est lié aussi à des événements de la vie. Que ce soit, d'ailleurs, une faillite, que ce soit la maladie, que ce soit le deuil d'une personne proche. Mais il se passe, généralement, quelque chose qui va faire que...
Voilà. Oui. Alors du coup, donc ce premier livre, on va pas tout raconter, sinon les auditeurs ne vont pas aller le lire.
Tout à fait.
Donc ce premier roman a été pour vous finalement, enfin vous saviez pas que c'était le premier, vous m'avez dit tout à l'heure, c'était un moyen de transmettre quelque chose et vous vous étiez pas du tout imaginé que ça ouvrait la porte à en écrire après 6 autres.
Tout à fait. Oui, c'est sûr que au vu des retours, au départ, j'en ai imprimé quelques centaines en me disant que déjà mes clientes seraient intéressées, curieuses de les lire.
Oui.
Et au vu des retours que j'ai eus tellement intenses, que je me suis dit, mais il faut vraiment que je continue. Donc là, je suis partie dans une autre aventure en imprimer 1000 exemplaires. C'était une grosse prise de risque.
Eh oui.
Mais finalement, pas tant que ça, parce que la preuve en est, j'en suis à la 4e édition, là. Donc voilà, et j'ai eu beaucoup de retours. Les lecteurs voulaient vraiment une suite. Donc c'est comme ça qu'est né le deuxième, Prête-moi tes ailes, qui est la suite du premier. Ça se passe 15 ans plus tard, mais c'est bien une suite. Donc, après la décision en 2021 de ne faire plus que ça. Donc aujourd'hui, je suis vraiment écrivain, j'ai du temps. Donc, d'où le côté prolifique des 5 romans qui ont suivi.
Donc en fait, les deux premiers se suivent. Mais est-ce que ceux qui viennent après, non, vous m'avez dit tout à l'heure, ce sont à chaque fois des nouveaux personnages ?
Tout à fait. Voilà. Les suivants sont totalement indépendants les uns des autres.
Oui.
Voilà, ce sont des histoires...
Et alors, avant de parler des autres romans, j'aimerais revenir sur ce premier roman parce que vous m'avez dit, c'était quand même incroyable comment ça s'est fait en fait. Parce que même au niveau matériel concret, vous avez eu aussi là aussi des quelque part des petits signes qui vous ont encouragé, même plus que des signes, des cadeaux, on pourrait dire.
Plus que des signes, oui, parce que pour en revenir à ma grand-mère, qui était quelqu'un de totalement non matérialiste, nous avait toujours dit qu'elle était arrivée sur Terre avec rien, qu'elle repartirait sans rien, et donc qu'elle ne laisserait rien. Et donc, ce qui fait que je n'attendais rien, voilà, de son départ. Et finalement, quand j'ai eu fait donc, le devis pour 1000 exemplaires, c'était quand même une somme conséquente, et donc j'ai réfléchi. J'ai laissé ça un petit peu en attente et mon oncle m'a écrit en me disant bon écoute finalement il y a un petit peu de sous, bon, il n'y a pas grand chose mais quand même donc voilà. Et quand il m'a annoncé à peu près l'ordre de prix, j'ai dit c'est vraiment génial, ça va venir finalement me permettre d'imprimer ces livres. Et après tout, quel plus beau retour sur investissement, sur son investissement vis-à-vis de moi, de par la lecture, que de me servir de cet argent pour imprimer mon livre. C'est juste, c'était vraiment une évidence. Et donc j'ai envoyé mon manuscrit à un correcteur professionnel. Là aussi, ça a un coût pour que vraiment le roman soit formaté aussi dans les règles de l'art, de la littérature, et puisse être référencé en librairie. Et donc, quand le manuscrit me revient, le roman passe de 275 pages à 445. Donc, je refais un devis. Donc, forcément, qui passe pratiquement du simple au double. Donc, je redeviens indécise. Et finalement, c'était au mois de juin, parce que les procédures chez le notaire prennent du temps. Mon oncle me réécrit en me disant « Ça y est, tout est réglé, on est passé chez le notaire. Écoute, surprise, finalement, il y a un petit peu plus que prévu. Bon, tant mieux. » Et ça venait justement combler à nouveau ce nouveau devis à très peu de choses près. Donc, bon, même si on peut rester sceptique à un moment donné, j'ai dit voilà, ça devait vraiment se faire. Et c'est vraiment ce côté lâcher prise aussi que je transmets dans mes livres, c'est que quand les choses doivent arriver, quand les choses doivent se faire, elles se font. Et quand elles ne doivent pas, elles ne se font pas. Ah, donc, oui. Ne rien forcer et laisser...
Tout tenter, mais ne rien forcer.
Exactement, tout vient au bon moment. Voilà.
Eh bien, sur cette belle note positive, nous allons faire la première pause musicale. Vous êtes bien, je rappelle, sur Radio Bulle, 93.6, votre radio de la Genêt. Et on se retrouve juste après la pause musicale. C'est Myriam, dans Envie de Sagesse. Je suis toujours en compagnie de Magali Dubreuil-Bourguet. À tout à l'heure.
Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break, wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you on my mind for don't know why I didn't come. I feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.
Vous êtes toujours sur Radio Bulle 93.6, votre radio de la Genêt, en compagnie de Myriam Besson pour l'émission Envie de Sagesse. Je suis toujours en compagnie de Magali Dubreuil-Bourguet, qui est venue nous parler de son parcours à travers ses romans. Alors Magali, nous nous étions arrêtés sur votre premier livre que vous avez écrit. Comment ça s'est, dans quelles circonstances de vie ça s'est déroulé? Et comment vous vivez aujourd'hui? Parce que depuis, il y a eu 6 autres livres. Comment vous vivez cette nouvelle vie d'auteur?
Très bien. Très bien. J'ai trouvé un bon compromis entre l'écriture, la diffusion, la promotion, puisque je fais tout. Donc, l'édition, notamment. Donc, mes journées sont rythmées d'écriture et de communication et de recherche de dates de dédicace, du suivi de mes dépôts, etc. Donc c'est vraiment un métier à part entière, très épanouissant. J'ai mis en place aussi à peu près tous les 2-3 mois de partir dans des tournées de dédicaces à travers la France. Donc je suis déjà partie en juin, je suis partie en septembre. En juin du côté de Lyon, Clermont-Ferrand, le Puy-en-Velay. En septembre du côté en partant de Bordeaux jusqu'à La Rochelle, Poitiers, Niort. Et là, en mars, début mars, le 4, je pars de Carcassonne jusqu'à Nice. Donc là, pour le coup, on part un peu plus longtemps, 3 semaines, 1500 km. En plaçant des dédicaces chaque jour de la semaine dans des librairies différentes.
Ah ouais, que donc des belles rencontres avec vos lecteurs.
C'est vraiment la plus belle partie entre l'écriture qui est déjà un moment exceptionnel, parce que là je suis en train d'ailleurs d'écrire le 8e, j'en suis à la moitié déjà, donc et ensuite voilà, partir à la rencontre des lecteurs et des lecteurs potentiels, c'est vraiment ce que j'aime le plus.
Ah
oui. Ouais.
Ah, ça donne envie, c'est un métier finalement qui est vraiment nourrissant. Il y a la partie où on écrit, on est en création, et puis il y a la partie rencontre avec son public finalement.
Ouais.
Mais vous habitez toujours sur quand même,
vous
restez à Montauban.
Ah, oui.
Après avoir voyagé et vu tellement de pays autour de la Terre.
Oui, tout à fait. Depuis 7 ans, je suis montalbanaise d'adoption. Je le suis aussi d'origine, puisque toute ma famille du côté de ma mère est d'origine de Valence d'Agen et autour. Donc, c'est bien.
Oui. Alors, tout à l'heure, on parlait donc des lecteurs et vous m'aviez confié une jolie anecdote qu'on pourrait partager. Dans votre dernier roman, je crois qu'il y avait une chanson.
Ah non, c'est dans le premier.
C'est dans le premier.
Oui, une fois. Oui, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de choses autour de ce premier roman. Puis c'est aussi le best-seller actuel, puisqu'il a déjà dépassé les 2500 exemplaires et il approche des 3000. Donc, il a vraiment une belle aventure. Et autour de cette histoire, puisque en fait, c'est vraiment le thème du livre. C'est-à-dire que sur leur parcours, les deux héroïnes, Océane et Gaïa, qui partent dans le mythique Volkswagen combi à travers... elles partent de Toulouse, elles vont jusqu'au Népal. Et sur leur chemin... elles vont vraiment semer l'espoir, l'optimisme, enfin, plein de messages différents. Et en même temps, à la rencontre de l'autre, elles vont finalement se rencontrer elles-mêmes. C'est souvent ce qui se passe quand on part. Et donc, ça, j'ai vécu la même chose finalement au travers de cette histoire. Et donc, pendant le confinement, je postais tous les jours sur les réseaux des poèmes. J'avais fait un poème par jour. Donc, toujours sur l'idée de la pleine conscience, de l'instant présent, etc., que c'est pas parce qu'on est enfermé dans nos maisons que notre esprit n'est pas libre.
Ah oui.
Voilà.
Et ça, donc, je suis bien d'accord. On en a parlé récemment dans une autre émission, petit clin d'œil. Et effectivement, mais Nelson Mandela ou Roger McGowan actuellement, ce sont des êtres qui sont tellement vivants et libres alors qu'ils sont enfermés.
Voilà. Donc c'était vraiment les messages, voilà, chaque jour d'écrire un poème tourné vers l'extérieur, Et à la fois vers l'intérieur. Mais et donc, le jour de mon anniversaire, je n'avais pas forcément eu envie de d'écrire un poème. Et j'ai pensé que, en fait, dans ce premier roman, il y a deux chansons, puisque ces deux femmes vont partir au bout du monde en chantant des chansons qu'elles ont écrites auprès des enfants dans les hôpitaux pédiatriques et des orphelinats. Et donc, il y a une chanson en français, une chanson en anglais que j'ai écrite. Au moment où je les ai écrits, j'avais la mélodie. Mais finalement, personne, les lecteurs ne connaissent pas cette mélodie. Donc je me suis dit, voilà, maintenant qu'il a été lu par suffisamment de personnes, peut-être que ça serait sympa de faire connaître la mélodie de cette chanson, de ces chansons. Donc j'ai chanté ma première chanson en français. Et il se trouve qu'au même moment, il y a un professeur de danse qui me suivait sur les réseaux sociaux, pour le citer Patrice, voilà, décide de me faire un cadeau d'anniversaire en envoyant cette vidéo à un ami à lui, Philippe, de La Rochelle, qui est musicien. Et donc, il récupère cette vidéo, il fait à l'oreille la musique de cette chanson, et ils font un montage en plaçant ma voix sur la musique, et me renvoie ça en cadeau d'anniversaire. Donc j'ai été très très touchée, mais ça a été plus loin, l'histoire est allée un peu plus loin, puisque finalement de cette chanson, cette vidéo montage a été envoyée à son tour à un professeur de musique du côté de Lyon, il me semble, qui en confinement lui aussi donc avait du temps et donc a travaillé sur la mise en partition de cette chanson. Donc finalement voilà, ils m'ont renvoyé la partition, j'ai en même temps appris à jouer à la guitare alors que je savais pas faire de notes, hein, avant, donc en 3 semaines à jouer ce morceau moi-même à la guitare, et donc jusqu'à l'envoyer et le déclarer à la SACEM. Donc voilà pour la petite anecdote.
Et donc on entend beaucoup, tout à l'heure aussi vous me disiez, mais pendant le confinement on avait le temps. Finalement, ce confinement, il vous a vraiment réussi à ce niveau-là?
Oui, complètement, parce que il m'a permis d'écrire beaucoup, de suivre aussi des formations, puisque je me suis tournée en même temps. Mais bon, j'y étais déjà. Enfin, moi, je médite tous les jours depuis 10 ans, donc vers l'énergétique aussi. Donc j'ai suivi des formations de toutes sortes. Je suis vraiment une autodidacte dans l'âme. j'aime beaucoup apprendre. Je suis toujours en soif d'apprendre de nouvelles connaissances. Donc j'ai suivi voilà, des formations en programmation neurolinguistique, en sophrologie, voilà, tous ces domaines me passionnent aussi. Et donc voilà, très, 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 pour moi, ils ont été, ces moments ont été vraiment privilégiés.
Voilà, donc nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Si je devais vous donner le petit mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Un petit message pour vos lecteurs peut-être qui vont venir vous rencontrer, pour tous ceux qui vont vous entendre.
Que mes romans sont juste un cadeau, je pense, voilà, d'espoir, d'optimisme, de bienveillance, de résilience, une grande bouffée d'oxygène.
Et qu'on en a tellement besoin.
Et qu'on en a vraiment besoin, tout à fait, en ce moment. Et que peu importe voilà, la période de notre vie ou ce que l'on traverse, il y en a forcément un qui va répondre à ses attentes, en tout cas, du moment. Voilà, puisqu'ils ont vraiment des thèmes différents, mais avec cette idée de traverser...
traverser une épreuve du mieux, voilà,
en faire quelque chose,
voilà, peut-être
en faire quelque chose, grand. En faire quelque chose de positif, en sortir grandi,
voilà. Alors vous parlez peut-être du deuil, j'imagine, de décès, de séparation,
de handicap. En fait, mon étoile de mer, pour parler du dernier, puisque c'est quand même celui-ci que j'ai présenté cet après-midi, c'est l'histoire de deux sœurs, dont c'est la petite sœur qui raconte son histoire. C'est un peu une petite sœur contrariée. Donc, il s'agit de Stella et Cassiopée. La maman était passionnée d'astronomie, d'où les prénoms. Et donc, Cassiopée, Stella est née trisomique, avec le syndrome de Down. Et donc... ce qui fait que finalement, Cassiopée, qui est la petite sœur, se décrit comme une petite sœur contrariée, puisqu'elle n'a jamais vraiment eu droit à ce rôle de petite sœur. Évidemment, très rapidement, on lui a dit « Fais attention à ta sœur.
Oui.
Toi, tu vas bien, donc continue de pousser comme tu le fais. »
Oui.
Et voilà, l'attention était toujours tournée vers sa sœur. Et la maman avait vraiment une relation fusionnelle avec sa première enfant. Donc pas toujours simple. Et finalement, la petite sœur Cassiopée a grandi avec une certaine frustration, jalousie, finalement, qui s'est tournée en déni pour vraiment finir en rejet catégorique de sa sœur. Et elle est allée chercher des ressources affectives ailleurs, puisque elle trouvait pas sa place au sein de cette famille. Donc elle est partie à l'âge de 14 ans et elle a fait sa vie. C'est devenue une grande designer de mode, grande créatrice de mode à Paris. Elle est allée jusqu'à s'inventer une vie de fille unique dont la maman vit à l'étranger jusqu'au fameux
appel.
Attention,
il faut pas nous
dire. Non, c'est que le début. Ah bon, voilà, c'est que le début de l'histoire.
Parce que moi, vous m'avez dit ça, j'ai vraiment envie de savoir. Très intéressant. Et c'est bien de se tourner la caméra vers l'autre frère ou l'autre sœur, celui qu'on remarque jamais. Parce que c'est vrai qu'on focalise tout, ben, forcément sur celui qui a le plus, entre guillemets, besoin ou qui attire le plus l'attention. Voilà. C'est très intéressant. En tout cas, moi, je vais le lire. Et puis je vous dirai.
Et c'est aussi un beau voyage puisque elles vont partir en voyage. Donc on part très très loin. Il y a vraiment de belles découvertes souvent dans la plupart de mes livres en fait, de belles découvertes de paysages, de cultures
que vous avez vous-même traversé. Ce sont des pays que vous avez vous-même.
Non, j'ai beaucoup voyagé, mais
des reportages peut-être.
Alors
aussi.
C'est beaucoup de travail de recherche en fait, beaucoup de travail de recherche. Je m'inspire toujours. Je vais d'abord chercher les informations. Donc sur les sites officiels des villes, des pays, les sites touristiques. Et ensuite, je vais aussi beaucoup lire les blogs de vrais globetrotters, on va dire. Parce que là, vous avez vraiment la vérité, pas le côté touristique. Et des fois, voilà, les inconvénients, ce qui peut mal se passer, etc. Je m'inspire de tout ça. Et après, une fois que j'ai vraiment tout intégré, suffisamment de savoir, j'efface tout. Et je vais chercher les images même de ces endroits et j'y vais. C'est-à-dire que moi, j'ai cette capacité vraiment à me plonger dans le décor en immersion totale. Et ça, c'est grâce à certains voyages, justement. Et donc, j'y vais. Et là, j'appelle à mon propre ressenti en fonction de ce que j'ai déjà acquis en termes de savoir. Et là,
et oui,
j'y vais.
J'écris. C'est vraiment donc, un travail total d'inspiration de ce que vous me dites. Je reconnais vraiment. Ça, c'est une vraie qualité de créateur, d'être plongé dans ces images inspirées. Donc, en tout cas, ça donne envie. J'espère que nous avons aussi donné envie aux auditeurs de vous lire. Et puis on vous remercie. Enfin, moi, je vous remercie, Magali.
Merci à vous de m'avoir reçue. Merci beaucoup.
Eh bien, notre émission se termine. C'était Myriam Besson pour l'émission Envie de Sagesse. J'étais en compagnie de Magali Dubreuil-Bourguet qui nous a présenté son parcours d'auteur, ses livres, comment elle les écrit, ce que ça lui apporte et ce que ça peut aussi vous apporter. Et je vous remercie Magali, à très bientôt.
À très bientôt, merci à vous.
Au revoir.